C'est l'heure du journal, présenté aujourd'hui par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. Comment mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale cet après-midi? Volodymyr Zelensky doit rencontrer Donald Trump à la Maison Blanche, appuyé en cela par une puissante délégation européenne, sauf contre l'imprévisibilité de Donald Trump et le cynisme de Vladimir Poutine. On le verra, difficile de ne pas opter pour autre chose qu'un optimisme extrêmement prudent. On se rendra par ailleurs en Israël au lendemain d'une importante mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu avec le Hamas. L'actualité en France, c'est notamment la visite en ce moment même d'Elisabeth Borne à Mayotte, la ministre de l'Éducation qui ne peut que constater sur place les retards accumulés dans la reconstruction des écoles 8 mois après le passage du cyclone Chido. Enfin, ange ou démon, il avait tissé sa filmographie entre pureté et décadence. On reviendra sur la carrière de l'acteur britannique Terence Stamp, dont on a appris la mort hier à l'âge de 87 ans. S'il fallait encore se convaincre de la détermination du président Vladimir Poutine à mener jusqu'au bout sa guerre en Ukraine, la percée fulgurante ces derniers jours de l'armée de l'envahisseur dans le Donbass est certainement un signal d'alerte de plus. La nuit dernière, Moscou a encore tiré quelques 140 drones et 4 missiles balistiques. Sans compter que le président russe peut désormais se vanter d'avoir été partiellement réhabilité après l'accueil spectaculaire que lui a offert en personne son homologue américain, c'était vendredi dernier en Alaska. Cette fois-ci, changement de décor. Donc, retour dans le sein des saints de la Maison-Blanche. Donald Trump a prévu de recevoir aujourd'hui Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, c'est-à-dire à l'endroit même où, en début d'année, le président ukrainien avait été, on s'en souvient, réprimandé jusqu'à l'humiliation en direct sur les télés du monde entier. Gageons cette fois-ci que les deux hommes sauront éviter une nouvelle altercation fracassante, d'autant que Zelensky ne sera pas seul pour l'occasion puisqu'il sera rejoint ensuite par une imposante délégation européenne. On y reviendra dans un instant. Pour l'heure, toute la question est donc de savoir quelles seront les lignes rouges défendues de part et d'autre. Puisqu'on le sait, Justine Leblon, Washington entend mettre la pression sur Kiev pour renoncer à certaines exigences, et en particulier territoriales.
Le président américain met l'accent sur 2 points majeurs. Si l'Ukraine veut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, Donald Trump l'écrit, pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama il y a 12 ans et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, précise-t-il en majuscule cette nuit sur son réseau Truth Social. Le président américain pose une condition territoriale sur la Crimée annexée par Moscou en 2014. Alors c'est le seul territoire évoqué explicitement par le versatile Donald Trump. La question du Donbass n'a pas été évoquée pour le moment, mais son émissaire Steve Witkoff cite une importante discussion sur Donetsk, région qui constitue la priorité militaire du Kremlin. Et selon la presse américaine, cette région ainsi que celle de Louhansk dans l'Est pourrait être réclamée contre un gel du front à Kherson et Zaporizhia dans le Sud. En même temps, les États-Unis annoncent être prêts à certaines garanties de sécurité pour l'Ukraine. Selon l'émissaire de Donald Trump, il pourrait proposer une garantie de sécurité similaire à l'article 5 de l'OTAN qui assure une assistance mutuelle en cas d'attaque armée. En tout cas, pour les Européens qui accompagnent Volodymyr Zelensky, les garanties de sécurité sont l'enjeu central aujourd'hui. Emmanuel Macron estime même qu'il en va de la sécurité des Européens et de la France.
Alors, parmi cette importante délégation européenne attendue à Washington pour appuyer en effet la position de Kiev, Justine le disait à l'instant, citera le président français, mais aussi le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le chef de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne, et puis 2 autres personnalités, disons plus inattendues, la chef du gouvernement italien et le président finlandais, Alexander Stubb. L'homme qui prône le multiculturalisme est un allié de Kiev, de même qu'un farouche opposant à Moscou, mais sa carte la plus importante peut-être sera celle de sa proximité avec le président américain. L'amitié entre les deux hommes nouée autour de leur passion commune, le golf, est-elle de nature à influer sur les négociations? Élément de réponse avec Lax Milotin.
L'amitié entre Alexander Stubb et Donald Trump est née en février dernier sur un parcours de golf à Mar-a-Lago, résidence du président américain en Floride. Ce dernier l'avait invité à un tournoi amateur et a été impressionné par le niveau de jeu du président finlandais. Depuis, les deux hommes s'appellent et s'envoient régulièrement des messages. Alexander Stubb, à 57 ans, parle 5 langues, a étudié aux États-Unis et à Paris avant de venir travailler à Bruxelles. C'est un interlocuteur crédible aux yeux du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump l'a d'ailleurs appelé pour lui demander s'il pouvait faire confiance à Vladimir Poutine, raconte le président finlandais dans le Wall Street Journal, ce à quoi il a répondu « vous ne pouvez pas ». Le président ukrainien a récemment remercié Alexander Stubb, car c'est aussi ce dernier qui a recollé les morceaux entre le président américain et Volodymyr Zelensky après la réunion houleuse de février dans le bureau ovale. Alexander Stubb devrait donc jouer le rôle de facilitateur des discussions à Washington aujourd'hui entre Européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président finlandais plaidera aussi pour ses intérêts, conscient du danger lié à la situation géographique de son pays. La Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Helsinki a rejoint l'OTAN récemment, en 2023, adhésion qui a fortement déplu à Moscou. En réponse, la Russie a renforcé sa présence militaire dans la zone.
À quand la fin du massacre délibéré de civils dans la bande de Gaza, ou pour le dire autrement, qui pourra arrêter aujourd'hui Benjamin Netanyahou? Parce que son projet d'occupation de l'enclave palestinienne, au mépris non seulement du droit international, mais aussi des otages encore vivants, ne conduira probablement à rien d'autre qu'à une guerre perpétuelle. Et bien des dizaines de milliers d'Israéliens, jusqu'à 500 000 selon les organisateurs, avaient décidé de se rassembler hier soir à Tel Aviv. Le but était de réclamer de leur gouvernement un accord de cessez-le-feu. En vain, a priori, puisque même si ce rassemblement était l'un des plus importants depuis le début de la guerre, jamais aucune de ces grandes manifestations de solidarité n'a permis jusqu'à présent d'inciter le Premier ministre et son cabinet d'extrême droite à transiger sur les conditions d'un accord avec le Hamas. Une correspondance depuis Jérusalem signée Alice Moreno.
Cela ne servira probablement pas à grand-chose. C'est ce que me confiait une manifestante hier dans un rassemblement organisé à Jérusalem au pied de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cette jeune femme participait pour la première fois au mouvement de protestation en réaction à la décision du cabinet de sécurité qui a validé la semaine dernière le plan de contrôle total de la bande de Gaza. Une partie de plus en plus importante de la population redoute une mise en danger de la vie des otages toujours retenus dans l'enclave en cas d'extension des opérations militaire et alerte aussi sur l'épuisement des troupes pour des objectifs de guerre de moins en moins entendables. Une majorité de manifestants ont exprimé leur frustration à travers la mobilisation, mais sans être optimistes quant à la réaction du gouvernement. Effectivement, loin d'être entendue, la protestation a été réprimée. La police a procédé à des dizaines d'arrestations. Benjamin Netanyahou a violemment critiqué le mouvement, affirmant qu'il renforçait la position du Hamas et ne ferait que ralentir la libération des otages. Le gouvernement travaille à cette étendue des opérations à Gaza. Hier, pendant la journée de mobilisation, le chef d'état-major Eyal Zamir a rencontré les généraux pour préparer ce plan d'attaque de la ville de Gaza qui doit être mis à exécution rapidement. Cette guerre à Gaza, ce sera notre Vietnam à nous, me confiait hier un autre manifestant faisant référence à l'échec de l'opération américaine dans les années 60-70 et qui avait provoqué d'importantes manifestations aux États-Unis. Et malgré le désespoir, ce même manifestant l'assurait, nous ferons entendre nos voix aussi longtemps qu'il le faudra.
Je précise qu'une délégation du mouvement islamiste Hamas a reçu ce matin au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu. D'un côté, le fils d'un ancien président et de l'autre, un ex-chef d'État héritier d'un dictateur. Hier, les deux candidats de droite sont arrivés en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Bolivie. Ce sont eux qui s'affronteront donc à l'automne prochain, marquant ainsi la fin de deux décennies de pouvoir de la gauche. Une défaite historique qui vient confirmer à la fois la fracture et le déclin de la force politique accusée d'être à l'origine de la profonde crise économique que traverse le pays. Eux réclament des élections anticipées. Eux, ce sont les Serbes. Voilà plusieurs mois déjà que le régime de Belgrade vacille sous la pression de la rue. Et après cinq nouvelles journées d'affrontements, le président a promis hier une réponse forte aux manifestants anticorruption, qu'il n'hésite plus d'ailleurs à qualifier de terroristes. Or, si les rassemblements étaient jusque-là généralement pacifiques, la situation s'est précisément détériorée lorsque des groupes de partisans du pouvoir s'en sont pris aux protestataires. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, est en déplacement aujourd'hui à Mayotte. Une visite pour constater l'avancée des engagements pris par le gouvernement après le passage du cyclone Chido. La tempête avait ravagé l'île, affaiblissant notamment encore un peu plus le système scolaire, déjà en grande souffrance depuis maintenant une décennie. Or, huit mois après, il reste de très nombreux travaux à mener. À seulement une semaine de la rentrée scolaire, il manque environ 1200 salles de classe pour accueillir l'ensemble des élèves. Tous les travaux de reconstruction des écoles ont pris du retard, en particulier en raison des enseignements saccadés, mais aussi des temps périscolaires inexistants, comme l'explique Nicolas Péot, président de la Chambre régionale des comptes et auteur d'un rapport sur les défis des écoles primaires à Mayotte. Il répond à Jeanne Serrin.
D'abord, il faut quand même préciser que ce n'est pas une obligation, c'est un choix décidé par les communes hein, de fournir ce type de prestations liées au périscolaire. Mais Mayotte étant une situation exceptionnelles sont justement des prestations très attendues. Alors, d'abord, il y a la question de la restauration. Nous estimons que 92% des enfants à Mayotte dans les écoles primaires n'ont pas accès à un repas chaud. Ce qui a comme conséquence que ce sont plutôt des collations de très grande inégalité en termes de qualité, qui ne répondent pas forcément à des conditions sanitaires telles qu'on devrait l'entendre. Le deuxième constat, c'est le périscolaire. À Mayotte, nos constats, c'est que le périscolaire se résume à de la garderie et à rien d'autre. Donc forcément, cette insuffisance dans les prestations périscolaires ne facilite pas tout l'accompagnement qu'on doit porter sur ce territoire.
Voilà le président de la Chambre régionale des comptes, Nicolas Péot, il répondait à Jeanne Serrin. Le ministre des Outre-mer se rend lui en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, Manuel Valls, qui pourrait ouvrir la porte à des amendements au texte négocié le mois dernier par les forces politiques de l'archipel et rejeté depuis par les indépendantistes. L'accord dit de Bougival prévoyait la création d'une entité étatique d'Anne-Bourg-Genre, potentiellement dotée de pouvoirs souverains, tout en restant dans le giron de la métropole. Pasolini l'aura immortalisé dans Théorème, Stéphane Elliott l'a lui métamorphosé en femme transgenre dans Priscilla, folle du désert, et puis George Lucas l'a encore transformé en maître de l'univers dans Star Wars. L'acteur britannique Terence Stamp est décédé hier à l'âge de 87 ans. Pierre Repère, bonjour.
Bonjour.
L'icône mâle a envoûté de ses yeux bleus et de sa présence magnétique une filmographie impressionnante, mais mêlant production hollywoodienne et film d'essai, brouillante au passage d'ailleurs conventions et certitudes.
Il était l'un des emblèmes des Swinging Sixties, de la culture britannique bouillonnante des années 60. Terence Stamp, icône à la beauté angélique, avait notamment été l'ange rédempteur du théorème de Pasolini en 1968, où il incarnait, grâce à sa beauté saisissante, un visiteur séduisant l'ensemble d'une famille bourgeoise milanaise, dont il cassait ensuite les codes. C'est cette même gueule d'ange et son regard d'un bleu azur qui lui valent d'ailleurs d'être repéré par Peter Ustinov, qui lui donne son premier grand rôle en 1962 dans le film Billy Budd. Terence Stamp y incarne un matelot angélique accusé de vouloir fomenter une mutinerie. Le jeune acteur crève l'écran, il est nominé aux Oscars et remporte le Golden Globe de la révélation masculine. Peu de choses pourtant prédestinent Terence Stamp à une carrière d'acteur. Né en juillet 1938 dans une famille modeste, entassé avec quatre frères et sœurs dans un logement à l'est de Londres, le jeune homme fasciné par Gary Cooper rêve pourtant déjà de cinéma. Un temps coursier pour une agence de publicité, il obtient une bourse pour une école d'art dramatique qui va lui ouvrir grand les portes du grand écran. Après le succès de Billy Budd à 23 ans à peine, Terence Stamp, enchaîne donc les rôles. Dans L'Obsédé de William Tyler, il incarne cette fois un personnage de psychopathe qui lui vaut le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1965. Un an plus tard, il est au casting du premier film de Ken Loach, Pas de larmes pour Joy, avant d'entamer une période dite italienne. En 1968, il est ainsi à l'affiche de trois films, Théorème de Pasolini, de le western El Gringo de Narizano, mais aussi Histoire extraordinaire de Fellini. Après s'être éloigné un temps des caméras, Terence Stamp revient à l'écran incarner des méchants, notamment le rôle emblématique du général Zod, ennemi de Superman, dans le film éponyme de Richard Donner en 1978. L'acteur enchaîne alors à nouveau les films quasiment un par an au cours des années 80, mais c'est en 1994 qu'il incarne l'un de ses rôles cultes dans le film Priscilla, folle du désert de Stéphane Elliott. Ce rôle, c'est celui de Ralph, ou plutôt de Bernadette Drag Queen, écumant les cabarets du désert australien. L'ambiguïté du personnage pour un acteur qui a toujours oscillé entre figure masculine et androgyne vient couronner une carrière déjà très riche. Terence Stamp incarnera encore quelques rôles-titres, notamment dans L'Anglais de Steven Soderbergh en 1998, mais à partir des années 2000, sa carrière est plutôt jalonnée de second rôle, souvent des figures d'autorité. Terence Stamp n'a alors plus la gueule d'ange de sa jeunesse, mais son regard pénétrant continue, lui, de crever l'écran.
Merci Pierre Repère. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Du soleil partout sur le territoire, même si quelques nuages pourront venir perturber la façade atlantique. Quant aux températures, elles seront comprises entre 20 et 34 degrés. 7 départements restent en vigilance orange pour canicule. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.